Ce qui afflige encore, entre autres choses, dans ce voyage de Varennes, ce qui diminue l'idée qu'on voudrait se faire de la bonté de Louis XVI, c'est la facilité avec laquelle il sacrifiait, en partant, livré à la mort des hommes qui lui étaient sincèrement attachés. Lafayette se trouvait, par la force des circonstances, gardien involontaire du roi, responsable de sa personne devant la nation. Il avait montré de bien des manières, et parfois en compromettant la Révolution elle-même, qu'il désirait par-dessus toute chose le rétablissement de l'autorité royale, comme garantie d'ordre et de paix. Républicain d'idées, de théories, il n'en avait pas moins sacrifié à la monarchie sa grande passion, sa faiblesse, la popularité. Il y avait à parier qu'au premier éclat de départ du roi, Lafayette serait mis en pièces. Et que deviendrait le ministre Montmorin, aimable et faible caractère, crédule aux paroles du roi qui, le 1er juin, pour répondre aux journaux, écrivit à l'Assemblée qu'il attestait, sur sa responsabilité, sur sa tête et sur son honneur, que jamais le roi n'avait songé à quitter la France. Qu'allait surtout devenir la fortunée Laporte, intendant de la maison du roi et son ami personnel, à qui, sans le consulter, il laissait en partant la charge terrible d'apporter à l'Assemblée sa protestation. Le premier coup de la fureur publique devait tomber sur ce malheureux, messager involontaire d'une déclaration de guerre du roi à son peuple. Laporte, infailliblement, dans cette guerre, tombait la première victime. Il en était le premier mort. Il pouvait commander sa bière et préparer son linceul. Lafayette, averti de plusieurs côtés, voulut n'en croire que le roi même. Il alla trouver et lui demanda ce qui en était réellement. Louis XVI répondit si nettement, si simplement, avec une telle bonhomie, que Lafayette s'en alla complètement rassuré. Ce fut uniquement pour satisfaire l'inquiétude du public qu'il doubla les postes. Bailly poussa plus loin la chevalerie, et fort au-delà de ce que lui permettait le devoir. Averti positivement par une femme de la reine qui voyait les préparatifs, il eut la coupable faiblesse de remettre à la reine cette dénonciation que l'honneur du roi lui faisait un devoir de tenir secrète. Le roi et la reine avaient fait dire qu'ils assisteraient le dimanche suivant, jour de la fête Dieu, à la procession paroissiale du clergé constitutionnel. Madame Élisabeth y témoignait de la répugnance. Le 19, veille du départ, la reine, parlant à Montmorin qui venait de voir la sœur du roi, disait au ministre « Elle m'afflige, j'ai fait tout au monde pour la décider. Il me semble qu'elle pourrait faire à son frère le sacrifice de son opinion. » Le roi tarda jusqu'au 20 juin pour attendre que la femme qui avait dénoncé sortît de service et aussi pour toucher encore un trimestre de la liste civile. Il le dit ainsi lui-même. Enfin, c'était le 15 juin seulement que les Autrichiens devaient avoir occupé les passages à deux lieues de Montmédy. Les retards successifs qui avaient eu lieu, les mouvements de troupes commandées, décommandées, n'étaient pas sans inconvénients. Choiseul dit au roi de la part de M. Bouillet que s'il ne partait le 20, dans la nuit, lui, Choiseul, relèverait tous les postes échelonnés sur la route et passerait, avec Bouillet, sur terre autrichienne. Le 20 juin avant minuit, toute la famille royale déguisée, sortie par une porte non gardée, était dans le carrousel. Un militaire fort résolu, désigné par M. de Bouillet, devait monter dans la voiture, répondre s'il était besoin et conduire toute l'affaire. Mais Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France, soutint le privilège de sa charge. En vertu du serment qu'elle avait prêté, elle avait le devoir, le droit de ne point quitter les enfants. Ce mot de serment fit une grande impression sur Louis XVI. Il était d'ailleurs inouï que dans les fastes de l'étiquette que les enfants de France voyageassent sans gouvernante. Le militaire ne monta pas et la gouvernante monta. Au lieu d'un homme capable, on eut une femme inutile. L'expédition du point de chef, personne pour la diriger, elle alla sans tête, au hasard. Le romanesque de l'aventure, malgré toutes les craintes, amusa la reine. Elle s'arrêta longtemps à voir déguiser ses enfants. Elle fit la croyable imprudence de sortir pour les voir partir dans la place du carrousel, extrêmement éclairée. Ils montèrent dans un fiacre, dont le cocher était Fersen. Pour mieux dépayser ce qui pourrait suivre, il fit quelques tours dans les rues, revint, attendit encore une heure au carrousel. Enfin, arriva Madame Élisabeth, puis le roi, puis plus tard la reine, conduite par un garde du corps. Celui-ci, connaissant mal Paris, lui avait fait passer le pont, l'avait mené rue du Bac. Revenue dans le carrousel, elle vit, avec haine, avec joie, passer Lafayette en voiture qui revenait des Tuileries, ayant manqué le coucher du roi. On dit que, dans le bonheur enfantin d'avoir attrapé son geôlier, elle toucha la roue d'une badine qu'elle tenait à la main, comme les femmes en portaient alors. La chose est difficile à croire. La voiture allait grand train et elle était entourée de plusieurs laquais à cheval portant des flambeaux. Le garde du corps affirme, au contraire, que cette lumière lui fit peur et qu'elle quitta son bras pour fuir d'un autre côté. Le cocher Fersen, menant dans son fiacre un dépôt si précieux, et ne connaissant guère mieux son pareil que les gardes du corps, alla jusqu'au faubourg Saint-Honoré pour gagner la barrière Clichy, où la berline attendait chez un Anglais, M. de Crawford. De là, il gagna la Villette. Pour se débarrasser du fiacre où suivaient les gardes du corps, il le versa dans un fossé. De là, il mena à Bondy. Là, il fallait bien se séparer. Il baisa les mains au roi, à la reine, la quittant reconnaissante, pour ne jamais la revoir, au moment où il venait, pour cette religion de sa jeunesse, de risquer sa vie. Une imprudence parmi tant d'autres qui signalèrent ce voyage avait été de faire partir les femmes de chambre très longtemps avant la famille royale, en sorte qu'elles arrivèrent 6 heures d'avance à Bondy. Le postillon qui les mena y était resté, de sorte qu'il vit, avec ébahissement, un homme habillé en cocher de fiacre qui montait seul dans une belle voiture attelée de 4 chevaux. Les voilà partis bien tard, mais ils vont grand train. Un garde à cheval à la portière, un autre assis sur le siège, un troisième, monsieur de Valory, courant en avant pour commander les chevaux, donnant magnifiquement un écu pour boire à chaque postillon, ce que donnait le roi seul. Un trait rompu arrêta quelques moments. Le roi aussi retarda un peu en voulant faire une montée à pied. Nulle difficulté du reste. 30 lieues et plus, où l'on n'avait placé aucun détachement de troupes, se trouvèrent ainsi parcourus. La reine, avant Châlons, disait à monsieur de Valory : « François, tout va bien, nous serions arrêtés déjà si nous devions l'être. » « Tout va bien ? Pour la France ou bien pour l'Autriche ? Car enfin, où va le roi ?» Il l'a dit hier soir à monsieur de Valory : « Demain, je vais coucher à l'abbaye d'Orval, hors de France, sur terre autrichienne. » Monsieur de Bouillé dit le contraire, mais lui-même il montre aussi. Il établit parfaitement que le roi, n'ayant plus aucune sécurité à attendre dans le royaume, avait dû changer d'avis, tomber enfin malgré lui dans le filet autrichien. Le peu de troupes que gardait Bouillé était si peu dans sa main qu'ayant fait quelques lieues au devant du roi, il crut devoir retourner pour être au milieu de ses soldats, les veiller et les maintenir. Le projet, qui semblait français en octobre et même encore en décembre, ne l'est plus en juin, lorsque M. de Bouillé a vu son commandement limité, ses régiments suisses éloignés, ses régiments français gagnés, lorsqu'il garde à peine quelques cavaleries allemandes. Le roi le sait et ne peut plus écouter ses répugnances pour passer sur terre d'Autriche. Le plan primitif de Bouillé était plus dangereux peut-être encore. Si le roi sortait de France, il se dénationalisait lui-même, apparaissait autrichien. Il était jugé, c'était un étranger. La France, sans hésitation, lui faisait la guerre. Mais Bouillé voulait la faire de ce côté de la frontière, en France et à peine en France, pas même dans une forteresse, dans un camp près Montmédy, un camp de cavalerie mobile allant ou venant. Là, il était, en même temps, n'était pas dans le royaume. La position militaire où on le plaçait, bonne contre les Autrichiens, et meilleure encore, dit Bouillé, contre les Français. Le roi, parmi ses cavaliers, derrière ses batteries volantes, adossé à l'ennemi, pouvant se retirer chez lui ou lui ouvrir nos provinces, aurait parlé nettement. Il aurait dit, par exemple, « Vous n'avez point une armée, vos officiers ont émigré, vos cadres sont désorganisés, vos magasins vides. J'ai laissé depuis 25 ans tomber en ruine vos fortifications sur toutes les frontières autrichiennes. Vous êtes ouvert et sans défense. Eh bien, l'Autrichien arrive. D'autre part, l'Espagnol, le Suisse. Vous voilà pris de 3 côtés. Rendez-vous. Restituez le pouvoir à votre maître. » Tel eût pu être le rôle du roi, devenu le noyau de la guerre civile, le portier de la guerre étrangère, pouvant à son aise ouvrir ou fermer. On eût peut-être jeté quelques mots de constitution pour annuler la résistance, pour que la vieille assemblée pût endormir le pays et le livrer décemment. Liège et le Brabant disaient assez ce qu'on pouvait attendre de ces paroles de prince. L'évêque de Liège, rentré avec des mots paternels et des soldats autrichiens, avait fait durement appliquer aux patriotes les vieilles procédures barbares, la torture et la question. Notre émigration n'attendait pas le retour pour faire circuler en France des listes de proscription. La reine serait-elle clémente ? Oublierait-elle aisément son humiliation d'octobre quand elle parut au balcon, pleurante devant le peuple ? Il n'y avait pas d'apparence. La femme qu'on accusait le plus d'avoir mené les femmes à Versailles, Théroigne, ayant été à Liège, fut suivie depuis Paris, désignée, livrée à la police liégeoise et à la police autrichienne, mai 91, qui, comme régicide, la mena au fond de l'Autriche, dans les prisons du frère de Marie-Antoinette. Sans nul doute, il y eut une cruelle réaction dans le goût de 1816, à cette dernière époque, à l'époque des cours prévôtales. Monsieur de Valory, ce garde du corps, ce courrier du roi dans le voyage de Varennes, fut prévôt du département du Doubs. Dans l'après-midi, vers 4 ou 5 heures, dit Madame d'Angoulême, dans le simple et naïf récit qu'a donné Weber, on passa à la grande ville de Châlons-sur-Marne. Là, on fut reconnu tout à fait. Beaucoup de monde louait Dieu de voir le roi et faisait des vœux pour sa fuite. Tout le monde ne louait pas Dieu. Il y avait une grande fermentation dans la campagne. Pour expliquer la présence des détachements sur la route, on avait eu l'idée malheureuse de dire qu'à 13 heures allait passer, qu'ils étaient là pour l'escorter. Dans un moment où l'on accusait la reine de faire passer de l'argent en Autriche, c'était irriter les esprits, tout au moins éveiller l'attention. Choiseul occupait le premier poste, 3 lieues plus loin que Châlons. Il avait 40 hussards, avec lesquels, dit Bouillet, il devait assurer le passage du roi, fermer après lui la route à tout voyageur. Si le roi était arrêté à Châlons, il devait l'en dégager par la force. Ceci ne se comprend guère. Ce n'est pas avec 40 cavaliers qu'on vient à bout d'une telle ville. Combien moins si toutes les campagnes d'alentour se mettaient de la partie. En effet, le paysan s'ennuyait de voir ses hussards sur la route. Il venait en foule et les regardait. On y venait de Châlons même. On se moquait du trésor. Tout le monde comprenait très bien de quel trésor il s'agissait. Le tocsin commençait à sonner dans les villages. La position de Choiseul n'était pas tenable. Il calcula, par le retard de 4 ou 5 heures, que la partie était manquée. Que le roi n'avait pu partir. Fût-il parti, rester sur cette route, augmenter l'inquiétude de tout ce peuple assemblé, c'était empêcher le passage. Les hussards, une fois éloignés, ces gens se dispersaient, le chemin devenait libre. Choiseul se décida à quitter le poste. Le secrétaire de la reine, Dougela, officier d'état-major qui était là avec lui et qui avait été employé à préparer tout sur la route, avertit Choiseul d'éviter Sainte-Ménéhould où il y avait de la fermentation. Ils prirent un guide et entreprirent de passer par les bois, s'engagèrent dans les routes affreuses, n'arrivèrent qu'au matin à Varennes. Choiseul eut dû faire suivre la grande route par Gogola ou quelque autre, afin que si le roi passait, on le guidât. On avertit les autres détachements. Loin de là, il envoya un valet de chambre de la reine, serviteur dévoué mais léger de peu de tête, et qui, par l'émotion, n'avait plus même ce peu. Il le dépêcha pour dire au détachement, sur la route, qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il ne restait qu'à se rallier près de monsieur de Bouillet. Choiseul s'en allait tout droit hors de France, il partait pour Luxembourg. Le roi arriva au moment où il venait de s'éloigner. Point de Choiseul, point de Gogola, point de troupes. Il vit un abîme ouvert. Cependant, la route était tranquille. On arrive à Sainte-Ménéhould. Dans son inquiétude, elle regarde, met la tête à la portière. Le commandant du détachement, qui ne l'avait pas fait monter à cheval, veut s'excuser, vient le chapeau à la main. Chacun reconnaît le roi. La municipalité, déjà assemblée, fait défendre aux dragons de monter à cheval. Leur disposition était trop incertaine pour qu'on essayât, malgré eux, de retenir la voiture. Mais un homme s'offre de la suivre, d'essayer de la faire arrêter plus loin. La municipalité l'autorise expressément. Cet homme, un ancien dragon, Drouet, fils du maître de poste, partit en effet, surveillé, suivi de près par un cavalier qui comprit son attention, qui l'eût tué peut-être. Il se jeta dans la traverse, s'enfonça dans les bois, nul moyen de le poursuivre. Il manqua cependant le roi à Clermont. Cette ville, non moins agitée que Sainte-Ménéhould, et neutralisant de même les troupes par ses menaces, laissa pourtant passer la voiture. Jamais Drouet ne l'eût atteinte si, d'elle-même, elle ne se fût arrêtée une demi-heure au plus, à la porte de Varennes, ne trouvant point de relais. Là se place une des fautes capitales de l'expédition. Gogola, officier d'état-major, ingénieur et topographe, s'était chargé d'assurer de vérifier tous les détails, de placer les relais au point où il n'y avait pas de maison de poste. C'était lui qui avait donné tout le plan au roi, qui lui avait fait refaire sa leçon. Louis XVI, qui avait une excellente mémoire, la répéta mot pour mot au courrier de Valory. Il lui dit qu'il trouverait les chevaux et un détachement avant la ville de Varennes. Or, Gogola les mit après, et il oublia de prévenir le roi de ce changement au plan convenu. Le courrier, monsieur de Valory, qui galopait en avant, aurait fini par trouver le relais si, comme il était raisonnable, il eût pris une heure au moins une demi-heure d'avance. Mais il aimait mieux profiter d'une si rare occasion. Il trottait à la portière, obtenait ainsi quelques mots des augustes voyageurs. Tard, bien tard, il mettait son cheval au galop et avertissait le relais. Ce fut bien aux autres postes, mais à Varennes, cela perdit tout. Il passa une demi-heure à chercher dans les ténèbres, à frapper aux portes, faire lever les gens endormis. Le relais, pendant ce temps, était de l'autre côté, tenu près par 2 jeunes gens, l'un fils de monsieur de Bouillet. Ils avaient l'ordre de ne bouger pour ne donner aucun éveil. Ils l'exécutèrent trop bien. L'un d'eux eût pu cependant, sans danger, aller voir à l'entrée de la ville si la voiture arrivait, la guider. La présence d'un seul homme sur la route, quand même on eût pu la remarquer à cette heure, dans cette nuit noire, n'aurait eu rien certainement qui fit faire attention. L'histoire de ce moment tragique où le roi fut arrêté est et sera toujours imparfaitement connue. Les principaux historiens du voyage de Varennes n'ont rien su que par ouï-dire. Messieurs de Bouillet père et fils n'étaient point là. Messieurs de Choiseul et de Gogola n'arrivèrent qu'une heure ou deux après le moment fatal. Monsieur Delon plus tard encore. Tout se réduirait à 2 mots, un de Drouet, un de Madame d'Angoulême. Si monsieur de Valory, le garde du corps qui allait en courrier, n'eût plus tard, sous la restauration, recueilli ses souvenirs. Son récit un peu confus mais fort circonstancié porte un caractère de naïveté passionnée qui éloigne toute idée de doute. Le temps, on le sent bien, n'a eu ici sur la mémoire aucune puissance d'oubli. Toute l'existence effacée du vieillard s'est concentrée dans ce fait terrible. Les périls, l'exil, tous les malheurs personnels ont glissé sur lui. Sa vie fut toute en cette heure, rien avant et rien après. Quand on arriva à 11h30 du soir à la hauteur de Varennes, la fatigue l'avait emporté. Tout dormait dans la voiture. Elle s'arrêta brusquement et tous s'éveillèrent. Le relais n'apparaissait pas. Point de nouvelles du courrier qui devait le commander. Celui-ci, M. de Valory, le cherchait depuis longtemps. Il avait d'abord appelé, sondé le bois des deux côtés de la route, appelé encore en vain. Il ne lui restait alors qu'à entrer dans la ville, frapper aux portes, s'informer. N'apprenant rien, il revenait désolé vers la voiture. Mais cette voiture, déjà, et ce qu'elle contenait, avait reçu un coup terrible. Un mot, une sommation qui les fit dresser en sursaut. « Au nom de la nation !» Un homme à cheval accourt par derrière au grand galop, s'arrête droit devant eux et dans les ténèbres crie « De par la nation, arrête, postillon, tu mènes le roi !» Tout resta stupéfié. Les gardes du corps n'avaient ni arme à feu, ni l'idée de s'en servir. L'homme passa, poussa son cheval à la descente et dans la ville. Deux minutes après, on commença à voir des hommes sortir avec des lumières, s'agiter et se parler un peu d'abord, puis davantage. Les allants et venants augmentent, la petite ville s'éclaire, tout cela en deux minutes, puis le tambour bat. La reine, pour s'informer aussi, était entrée, conduite par l'un de ses gardes, chez un ancien serviteur de la maison de Condé, dont la maison se trouvait sur la pente qui mène à Varennes. On l'attend. Quand elle remonte, les gardes réunis contraignent par promesses et menaces les postillons, fort ébranlés, à traverser la ville, passer rapidement le pont qui la divise, le tour du pont, la porte basse et la voûte qui se trouve sous la tour. Nulle autre chance de salut. On venait d'apprendre que le commandant des hussards qui devait atteindre à Varennes, sur la nouvelle de l'arrivée du roi, au bruit de tous ces mouvements, s'était sauvé au galop. Les hussards étaient dispersés, les accouchés, les autres ivres. Ce commandant était un Allemand de 17 ou 18 ans, il n'était prévenu de rien, il a pris la chose tout à coup et perdit la tête. Drouet et Guillaume, un camarade qui l'avait suivi, mirent singulièrement à profit ces quelques minutes. Jeter leurs chevaux dans une écurie qui se trouva ouverte, avertir l'aubergiste pour qu'il avertît les autres, courir au pont, le barrer avec une voiture de meubles et d'autres voitures, ce fut l'affaire d'un instant. De là, ils courent chez le maire, le commandant de la garde nationale. Ils n'ont rassemblé que 8 hommes, n'importe. Ils vont à la voiture. Elle était encore qu'au bas de la côte. Le commandant et le procureur de la commune demandent les passeports. La reine. Messieurs, nous sommes pressés. Mais enfin, qui êtes-vous, madame de Tourzel? C'est la baronne de Corf. Cependant, le procureur de la commune entre, la lanterne à la main, à demi dans la voiture, et en tourne la lumière vers le visage du roi. On donne alors le passeport. Deux gardes le portent à l'auberge. On le lit tout haut, devant les municipaux et tous ceux qui se trouvent là. Le passeport est bon, disent-ils, puisqu'il est signé du roi. Mais, dit Drouet, l'est-il de l'Assemblée nationale? Il était signé des membres d'un comité de l'Assemblée. Mais l'est-il du président? Ainsi, la question fondamentale du droit de la France, le nœud de la Constitution fut examiné, tranché dans une auberge de champagne, d'une manière décisive, sans appel et sans recours. Les autorités de Varennes, le procureur de la commune, un bon épicier, M. Sauce, hésitaient fort à prendre une si haute responsabilité. Mais Drouet et d'autres insistent. Ils retournent à la voiture. « Mesdames, si vous êtes étrangères, comment avez-vous assez d'affluence pour qu'à Sainte-Ménéhoul, on veuille vous faire escorter de 50 dragons, d'autant encore à Clermont? Et pourquoi encore à Varennes, un détachement de hussards est-il là à vous attendre? Veuillez descendre et venir vous expliquer à la municipalité. » Les voyageurs ne bougeaient pas. Les municipaux n'annonçaient nulle envie de les forcer à descendre. Les bourgeois arrivaient lentement. La plupart, au bruit des tambours, se renfonçaient dans leur lit. Il fallut leur parler plus haut. Drouet et les patriotes coururent au clocher et de toute leur puissance sonnèrent furieusement le tocsin. Toute la banlieue l'entendait. Est-ce le feu? Est-ce l'ennemi? Les paysans courent, s'appellent, s'arment, prennent ce qu'ils ont, fusils, fourches, faux. Le procureur de la commune, M. Sauce, l'épicier, se trouvait fort compromis qu'il n'agit point. Il avait une maîtresse femme qui, dans ce moment critique, le dirigea probablement. Mener le roi à l'hôtel de ville, c'était porter atteinte au respect de la royauté. Le laisser dans sa voiture, c'était se perdre du côté des patriotes. Il prit le juste milieu, mena le roi dans sa boutique. Il se présenta à la voiture chapeau bas. Le conseil municipal délibère sur les moyens de permettre aux voyageurs de passer outre, mais le bruit s'est ici répandu que c'est notre roi et sa famille que nous avons l'honneur de posséder dans nos murs. J'ai l'honneur de les supplier de me permettre de leur offrir ma maison comme lieu de sûreté pour leur personne, en attendant le résultat de sa délibération. L'affluence du monde dans les rues s'augmente par celle des habitants des campagnes voisines qui attirent notre tocsin. Car malgré nous, il sonne depuis un quart d'heure, et peut-être votre majesté se verrait-elle exposée à des avanies que nous ne pourrions prévenir et qui nous accableraient de chagrin. Il n'y avait pas à contredire ce que disait le bonhomme. Le tocsin ne s'entendait que trop. Nul secours. Les gardes du corps avaient inutilement essayé de déménager les meubles et voitures qui encombraient le passage étroit du pont. Des menaces de mort s'entendaient près de la voiture. Plusieurs, armés de fusils, faisaient mine de la mettre en joue. On descendit. On entra dans la boutique de sauce. Les trois dames, les deux enfants et Durand, le valet de chambre. On conteste à celui-ci sa qualité de valet. Il insiste, soutient son nom de Durand. Tout le monde secoue la tête. Eh bien oui, je suis le roi. Voici la reine et mes enfants. Nous vous conjurons de nous traiter avec les égards que les Français ont toujours eus pour leur roi. Louis XVI n'était pas parleur, il n'en dit pas davantage. Malheureusement, son habit, son triste déguisement parlait peu pour lui. Ce laquais en petite perruque ne rappelait guère le roi. Le contraste terrible de ce rang, de cet habit, pouvait inspirer la pitié plus que le respect. Plusieurs se mirent à pleurer. Cependant, le bruit du tocsin augmentait d'une manière extraordinaire. C'étaient les cloches de village qui, mises en branle par celles qui sonnaient de Varennes, sonnaient à leur tour le tocsin. Toute la campagne ténébreuse était en émoi. Du clocher, on aurait pu voir courir des petites lumières qui s'attiraient et se cherchaient. Une grande nuée d'orage se concentrait de toutes parts, une nuée d'hommes armés, plein d'agitation, de troubles. « Quoi? C'est le roi qui se sauve? Le roi passe à la nuit? Il trahit la nation ?» Ce mot terrible de lui-même sonne plus terrible encore à l'oreille des hommes de la frontière qui ont l'ennemi si près et toutes les calamités, les misères de l'invasion. Aussi, les premiers qui entrent à Varennes et qui entendent un mot ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Un père livrait ses enfants. Nos paysans de France n'avaient guère encore d'autres notions politiques que celles du gouvernement paternel. C'était moins l'esprit révolutionnaire qui les rendait furieux que l'idée horrible, impie, des enfants livrés par un père de la confiance trompée. Ils entrent, ces hommes rudes, dans la boutique de sauce. Quoi, c'est là le roi, la reine? Pas plus que cela. Il n'est pas d'imprécation qu'on leur jette à la face. Cependant, une députation arrive de la commune. Sauce, en tête, soumis et respectueux. Puisqu'il n'est plus douteux pour les habitants de Varennes qu'ils ont réellement le bonheur de posséder leur roi, ils viennent prendre ses ordres. « Mes ordres, messieurs, dit le roi, faites que mes voitures soient attelées et que je puisse partir. » Messieurs de Choisel et Goguelet arrivèrent enfin avec leur hussard. Puis, presque seul, monsieur de Damas, commandant du poste de Sainte-Ménéhoulde, que ses dragons avaient abandonné. Ce n'était pas sans peine que ces messieurs avaient pénétré dans la ville. On la leur défendait au nom de la municipalité. On tira même sur eux. Ils parvinrent à la maison de Sauce. Ils montèrent par l'escalier tournant au premier étage et, dans une première chambre, trouvèrent force paysans. Deux, entre autres, armés de fourches, qui leur dirent « On ne passe pas !» Ils passèrent. Dans la seconde était la famille royale. Coup d'œil étrange. Le dauphin dormant sur un lit tout défait. Les gardes du corps sur des chaises ainsi que les femmes de chambre. La gouvernante, madame et madame Élisabeth sur des bancs, près de la fenêtre. Le roi et la reine debout. Ils causaient avec monsieur Sauce. Sur une table étaient des verres, du pain et du vin. Le roi. « Eh bien, messieurs, qu'en partons-nous » Goguelat. « Sire, quand il plaira à votre majesté. » Choiseul. « Donnez vos ordres, sire. J'ai ici 40 hussards, mais il n'y a pas de temps à perdre. Dans une heure, ils seront gagnés. » Il disait vrai. Ces hussards étaient encore dans la première surprise où la grande nouvelle les avait jetés. Ils disaient entre eux en se regardant « Der König, die Königin, le roi et la reine. » Mais totalement qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas ne pas voir l'unanimité des Français. Ils l'avaient bien éprouvé, même dans la route écartée qu'ils venaient de parcourir avec monsieur de Choiseul. Il avoue que, de village en village, le tocsin sonnait sur lui, qu'il fut obligé plusieurs fois de se faire jour le sabre à la main, que les paysans en vinrent jusqu'à lui enlever 4 hussards qui faisaient son arrière-garde. Il lui fallut faire une charge pour les dégager. Ces Allemands, qui se voyaient seuls au milieu d'un si grand peuple, qui se sentaient après tout payés et nourris par la France, ne pouvaient pas aisément se décider à sabrer des gens qui venaient amicalement leur donner des poignées de main et boire avec eux. Dans ce moment critique où chaque minute avait une importance infinie, avant que le roi n'eût pu répondre à Choiseul, entre à grand bruit la municipalité, les officiers de la garde nationale. Plusieurs se jettent à terre. Au nom de Dieu, sire, ne nous abandonnez pas, ne quittez pas le royaume. Le roi tâcha de les calmer. Ce n'est pas mon intention, messieurs. Je ne quitte point la France. Les outrages qu'on m'a faits me forçaient de quitter Paris. Je ne vais qu'à Montmédy, je vous invite à m'y suivre. Faites seulement, je vous prie, que mes voitures soient attelées. Ils sortirent. C'était alors la dernière minute qui restait à Louis XVI. Choiseul, Goguelat, attendaient ses ordres. Il était 2 heures du matin. Il y avait autour de la maison une foule confuse, mal armée, mal organisée. La plupart sans armes à feu. Ceux même qui en avaient n'auraient pas tiré sur le roi, Brouet peut-être excepté, encore moins sur les enfants. La reine seule eût pu courir un danger réel. C'est à elle que Choiseul et Gogolas s'adressèrent. Ils lui demandèrent si elle voulait monter à cheval et partir avec le roi. Le roi tiendrait le dauphin. Le pont n'était pas praticable, mais Gogolas connaissait les guets de la petite rivière. Autour de 30 ou 40 hussards, ils étaient certains de passer. Une fois de l'autre côté, nul danger. Ceux de Varennes n'avaient pas de cavaliers pour les suivre. Cette hasardeuse chevauchée avait pourtant, il faut le dire, de quoi effrayer une femme, même brave et résolue. La reine leur répondit « Je ne veux rien prendre sur moi, c'est le roi qui s'est décidé à cette démarche. C'est à lui d'ordonner, mon devoir est de le suivre. Après tout, monsieur de Bouillet ne peut tarder d'arriver. » « En effet, reprit le roi, pouvez-vous bien me répondre que, dans cette bagarre, un coup de fusil ne tuera pas la reine, ou ma sœur, ou mes enfants ? Raisonnons froidement d'ailleurs. La municipalité ne refuse pas de me laisser passer. » Elle demande seulement que j'attende le point du jour. Le jeune Bouillet est parti vers minuit pour avertir son père à Stenay. Il y a 8 lieues, c'est 2 ou 3 heures. Monsieur de Bouillet ne peut pas manquer de nous arriver au matin. Sans danger, sans violence, nous partirons en sûreté. Pendant ce temps, les hussards buvaient avec le peuple, buvaient à la nation. Il était bientôt 3 heures. Les municipaux reviennent encore, mais avec ces brefs paroles d'une signification terrible. Le peuple s'opposant absolument à ce que le roi se remette en route, on a résolu de dépêcher un courrier à l'Assemblée nationale pour savoir ses intentions. Monsieur de Gogolas était sorti pour juger la situation. Drouet s'avance vers lui et lui dit « Vous voulez enlever le roi, mais vous ne l'aurez que mort. » La voiture était entourée d'un groupe de gens armés. Gogolas approche avec quelques hussards. Le major de la garde nationale qui le commandait « Si vous faites un pas, je vous tue. » Gogolas pousse son cheval sur lui et reçoit 2 coups de feu, 2 blessures assez légères. Une des balles s'étant aplatie sur la clavicule, lui fit lâcher les rênes, perdre l'équilibre, tomber de cheval. Il put se relever pourtant, mais les hussards furent dès lors du côté du peuple. On leur avait fait remarquer aux extrémités de la rue des petits canons qui les menaçaient. Ils se crurent entre 2 feux. Ces canons, vieille ferraille, n'étaient point chargés et ne pouvaient l'être. Gogolas, blessé, sans se plaindre, rentra dans la chambre de la famille royale. Elle présentait un spectacle navrant, tout ensemble ignoble et tragique. L'effroi de cette situation désespérée avait brisé le roi. La reine affaiblit même visiblement leur esprit. L'effroi de cette situation désespérée avait brisé le roi à la reine, affaiblit même visiblement leur esprit. Il priait l'épicier Sauce, sa femme, comme si ces pauvres gens n'avaient plus rien faire à leur chose. La reine, assise sur un banc, entre 2 caisses de chandelles, essayait de réveiller le bon cœur de l'épicière. « Madame, lui disait-elle, n'avez-vous donc pas des enfants, un mari, une famille ?» À quoi l'autre répondait simplement, sans long discours. « Je voudrais vous être utile, mesdames. Vous pensez au roi. Moi, je pense à Monsieur Sauce. Chaque femme pour son mari. » La reine se détourna furieuse, versant des larmes de rage, s'étonnant que cette femme, qui ne pouvait la sauver, refusa de se perdre avec elle, de lui sacrifier son mari et sa famille. Le roi semblait hors de sens. L'officier qui commandait le premier poste après Varennes, Monsieur Delon, ayant obtenu de pénétrer jusqu'à lui, et lui disant que Monsieur de Bouillet, averti, allait sans nul doute arriver à son secours, le roi parut ne pas l'entendre. Il répéta la même chose jusqu'à 3 fois, et voyant qu'elle n'arrivait pas jusqu'à son intelligence, « Je prie, dit-il, votre majesté, de me donner ses ordres pour monsieur de Bouillet. »« Je n'ai plus d'ordre à donner, monsieur, dit-il. Je suis prisonnier. Dites-lui que je le prie de faire ce qu'il pourra pour moi. » Beaucoup de gens, en effet, craignaient fort qu'il n'arrivât, voulaient éloigner le roi. Des cris s'élevaient. « À Paris !» On l'engagea pour calmer la foule à se montrer à la fenêtre. Le jour déjà venu et clair illuminait la triste scène. Le roi au valet, au balcon, sans poudre, dans cette ignoble petite perruque défrisée, pâle et gras, grosses lèvres pâles, muet, l'œil terne, n'exprimant aucune idée. La surprise fut extrême pour ces milliers d'hommes qui se trouvaient là. D'abord un silence profond, indiqua le combat de pensées et de sentiments qui se faisaient dans les esprits. Puis la pitié déborda, les larmes, le vrai cœur de la France. Et avec une telle force que parmi ces hommes furieux, plusieurs crièrent « Vive le roi !» La vieille grand-mère de Sauce, ayant obtenu d'entrer, eut le cœur navré en voyant les 2 enfants qui dormaient ensemble, innocemment sur le lit de la famille. Elle tomba à genoux et, sanglotant, demanda la permission de leur baiser les mains. Elle les bénit et se retira en pleurs. Scène cruelle en vérité, à crever les cœurs les plus durs, les plus ennemis. Oui, un Liégeois même eut pleuré. Liège, captif de Léopold, barbarement traité par les soldats autrichiens, eut pleuré sur Louis XVI. Telle était la situation étrange et bizarre. La Révolution, captive des rois en Europe, tient les rois captifs en France. Que dis-je, situation étrange ? Non, la compensation est juste. Faible esprit que nous sommes, ce qui surprenait le plus dans la scène de Varennes était le plus naturel. Ce qui semblait un changement, un renversement inouï, donne un retour à la vérité. Ce déguisement qui choquait rapprochait Louis XVI de la condition privée pour laquelle il était fait. À consulter son aptitude, il était propre à devenir, non valet sans doute, il était lettré, cultivé, mais serviteur d'une grande maison, précepteur ou intendant, dispensé comme serviteur de toute initiative. Il eut été un économe exact et intègre, un précepteur assez instruit, très moral, très consciencieux, toutefois dans la mesure où un dévot le peut être. L'habit de serviteur était son habit réel. Il avait été déguisé jusque-là sous les insignes menteurs de la royauté. Mais, pendant que nous songeons, le temps va. Déjà, le soleil est bien haut à l'horizon. 10 000 hommes remplissent Varennes. La petite chambre où est la famille royale, quoique regardant le jardin, tremble à cette grande voix confuse qui s'élève de la rue. La porte s'ouvre. Un homme entre. Un officier de la garde nationale de Paris, figure sombre, toute défaite, fatiguée mais exaltée, cheveux sans frisure ni poudre, l'habit décolleté. Il n'eut dit que des mots entrecoupés. « Sire, dit-il, vous savez, tout Paris s'égorge. Nos femmes, nos enfants sont peut-être massacrés. Vous n'irez pas plus loin, sire. L'intérêt de l'État. Oui, sire, nos femmes, nos enfants. » À ces mots, la reine lui prit la main avec un mouvement énergique, lui montrant Monsieur le Dauphin et Madame qui, épuisée de fatigue, était assoupie sur le lit de Monsieur Sauce. « Ne suis-je pas mère aussi ? » lui dit-elle. « Enfin, que voulez-vous ? » lui dit le roi. « Sire, un décret de l'Assemblée. Où est-il ? Mon camarade le tient. » La porte s'ouvrit, nous vîmes Monsieur de Romeuf, appuyé contre la fenêtre de la première chambre, dans le plus grand désordre, le visage couvert de larmes et tenant un papier à la main. Il s'avança les yeux baissés. « Quoi, monsieur, c'est vous ? « Ah, je ne l'aurais jamais cru !» lui dit la reine. Le roi lui arracha le décret avec force, le lut et dit « Il n'y a plus le roi en France. » La reine le parcourt, le roi le reprend, le relie encore et le pose sur le lit où étaient les enfants. La reine, avec impétuosité, le rejette du lit en disant « Je ne veux pas qu'il souille mes enfants !» Il s'éleva alors un murmure général par les municipaux et les habitants présents, comme si l'on venait de profaner la chose la plus sainte. Je me hâtais de ramasser le décret et le poser sur la table, Choiseul. Que faisait Monsieur de Bouillé ? Comment n'arrivait-il pas ? Averti successivement par son fils, par le petit officier des hussards de Varennes, puis par les messagers pressants de Délon de Choiseul, comment ne franchissait-il pas rapidement ce court espace de 8 lieues ? Comment ? Il le dit lui-même, et prouve parfaitement qu'il ne pouvait rien. Il était si peu sûr de ce qu'il avait de troupes, il se voyait environné de tant de villes mauvaises, c'est lui-même qui parle ainsi, menacé de Verdun, de Metz, de Stenay, de tous côtés, qui ayant été quelque peu au devant du roi, il revint bien vite pour s'assurer du soldat, craignant de moment en moment d'être abandonné. Et il garda près de lui son officier le plus sûr, son fils aîné, Louis de Bouillé. Et à eux deux, ayant enlevé le meilleur régiment de l'armée, le seul à vrai dire qui resta, c'était royal allemand, ils ne purent le faire armer qu'en 2 ou 3 heures de nuit, de cette nuit terrible dont chaque minute peut être décidée d'un siècle. Ce régiment, chauffé à blanc de leurs paroles brûlantes, gorgé, payé à tant de louis par homme, franchit les 8 lieues d'un galop rapide à travers un pays soulevé, seul dans cette campagne grouillante de gens armés, vraiment en terre ennemie, en grand doute de retour. Il rencontre un des leurs. Eh bien, le roi est parti de Varennes. Bouillé enfonça son casque, jura, mit l'éperon sanglant dans les flancs de son cheval. En un mot, l'homme vit tout disparaître comme un ouragan. Enfin, il touche à Varennes. Nul passage. Des barricades sur la route. Il trouve un gué et le passe. Au-delà, c'est un canal. Il cherchait à le passer. De nouvelles informations les en dispensèrent. Ils avaient perdu tout espoir de jamais rejoindre le roi. Les Allemands commençaient à dire que leurs chevaux n'en pouvaient plus. La garnison de Verdun marchait en force sur eux. Le jeune Louis de Bouillé, racontant cette heure dernière où son père volait, l'épée nue, à la poursuite du grand otage, dit avec un mouvement audacieux et juvénile « Nous nous enfoncions avec cette petite troupe dans la France armée contre nous. » Oui, c'était bien vraiment la France. Et ces Allemands qui couraient, et Bouillé qui les conduisait, et le roi qu'on emmenait, qu'était-ce donc ? C'était la révolte.